Bonjour Laurie Mongy, nous parlons de Soliste, votre dernier livre, qui commence par ces trois mots, comme chaque matin, et qui se termine par ces trois mots, comme chaque matin, enfin qui se termine en tout cas au 32e chapitre. Le 32e chapitre étant le dernier, et ça commence par comme chaque matin, deux fois. Ce début de Soliste est-elle une référence ouverte à la poinçonneuse de Bernard Hittick, qui répète cette phrase comme chaque matin?
Je suis très heureuse que vous l'ayez remarqué, car de surcroît, je suis assez connue pour faire du karaoké de la poinçonneuse, donc c'est quelque chose que je fais assez souvent, comme chaque matin, comme chaque matin, comme chaque matin. Il lui tendit son ticket de métro. Il lui tendit son ticket de métro. Voilà, donc c'est vraiment une œuvre de Bernard Hittick que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup écouté. Et ça me faisait plaisir de faire un petit clin d'œil à la poinçonneuse.
Mais il semble que c'est un peu plus qu'un clin d'œil. Donc c'est aussi, la poinçonneuse est aussi quelque chose que pour lequel j'ai une belle admiration aussi pour Bernard Hittick. Et je l'ai vraiment en tête de manière sonore. J'ai l'impression que c'est aussi un peu une sorte d'œuvre de référence pour Soliste, puisque pour Soliste, avec ce personnage de Glenn Gould, se pose la question de l'enregistrement, se pose le fait que Glenn Gould est connu pour ses enregistrements, le fait qu'il ait abandonné le concert pour se consacrer aux enregistrements. Nous parlerons bien entendu des variations Goldberg de Bach, qui est la base un peu de la construction du livre. Mais dans l'œuvre de référence de La poinçonneuse de Bernard Hittick, est issue comme chaque matin, votre début, il y a La poinçonneuse, il y a plusieurs voix enregistrées dans La poinçonneuse. Il y a plusieurs voix enregistrées dedans. On est dans de la poésie sonore, on est aussi dans la vie quotidienne. C'est le métro, en fait. C'est le métro, puis c'est une histoire d'amour, La poinçonneuse. Et je retrouve à la fois... les voix enregistrées, il y a plusieurs voix dans Soliste, d'ailleurs, qui perdent un peu le lecteur, mais à Essian, et c'est très 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 bien fait. Une coiffeuse, par exemple, on se dit, mais que vient faire la coiffeuse là? Il y a donc plusieurs voix enregistrées, et puis ce relais avec les enregistrements de Glenn Gould, et tout ça mélangé avec de la vie quotidienne. La référence est donc peut-être plus conséquente que juste... chaque matin.
Ou alors c'est aussi il faut dire qu'il y a eu pas mal de références aussi. C'est un cercle, c'est une sorte de réseau de références, je dirais, de textes fondateurs. Donc ça entre en résonance, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas pensé comme ça. Mais ça doit être évidemment sous-jacent au travail du texte.
Soliste, il y a donc une 4, 5, 6 voix qui se mélangent. Il y a Glenn Gould, et puis il y a ce personnage, Thomas, pourrait être le Glenn Gould qui n'est pas mort. En fait, votre base pour Soliste, c'est Glenn Gould n'est pas mort, il s'est inventé une fausse mort, et il s'appelle Thomas maintenant. Il joue dans une sorte d'hôtel, il fait du piano-bar, quoi. Ma question, c'est déjà, question bête, pourquoi avoir choisi Glenn Gould? Pourquoi tourner autour de Glenn Gould? Est-ce que c'était techniquement pour réfléchir à cette histoire de comment raconter une vie sans véritablement la raconter? Parce que vous racontez très peu la vie de Glenn Gould, en fait.
En fait, le choix de Glenn Gould, il était fait depuis très longtemps. C'était au départ mon livre Fonction Elvis, qui devait être un diptyque entre ces deux figures. Le concept de départ, c'était qu'on a tendance à penser qu'Elvis Presley est une figure solaire car rock, alors que pour moi, c'est l'incarnation d'un héros tragique, ce que j'ai écrit dans Fonction Elvis. Alors que Glenn Gould est un personnage qui est beaucoup plus loufoque que ce qu'on pourrait croire au premier regard quand on ne connaît simplement que des photos de ses disques classiques de chez Sony. Sachant que moi j'ai une formation de pianiste classique au départ, donc en fait mon vrai héros rock c'était plutôt Gould que Elvis Presley. Donc voilà, c'était le projet de départ. En 2006 est donc sorti Fonction Elvis, et j'ai réattaqué le monument Gould assez récemment, il y a un an ou deux, et là j'ai été un petit peu aux prises avec un problème qui est que Autant il était facile de s'attaquer à une figure malléable comme celle d'Elvis, et finalement on pouvait en faire un petit peu ce qu'on veut, tellement il a été attaqué en ce sens de toutes parts, à commencer par Andy Warhol. Autant c'était beaucoup plus compliqué avec Gould, dans la mesure où lui-même a beaucoup blindé son image, a beaucoup écrit. Il y a Mont-Saint-Jean qui a fait aussi beaucoup de boulot, Bruno Mont-Saint-Jean autour de lui, énormément de vidéos, donc en fait, on ne peut pas trop en faire un personnage aussi facilement. Et puis également, les mythes gouldiens sont assez connus du grand public. Voilà, donc j'ai choisi un biais qui me permettait d'évoquer, parce qu'il y a quand même des manies et des obsessions gouldiennes qui sont très présentes, comme celle de la solitude ou son goût pour le froid. Son goût pour les documentaires radiophoniques également, mais ça ne se veut absolument pas quelque chose d'extensif et d'un petit peu qui ferait une sorte de biographie du musicien. Ça me semblait vraiment un exercice qui serait voué à l'échec.
Et ce n'est absolument pas le cas, parce qu'on a très peu d'éléments de sa vie, finalement. Donc le dispositif de soliste, Laure Limongi, c'est 32 parties assez courtes, généralement ça va de 3 à 5, 6 pages, donc au nombre des variations Goldberg, qui se lisent comme des variations, et qui ne se répondent pas forcément, avec soudain une coiffeuse, par exemple, qui va parler dans sa langue à elle, d'ailleurs, vous utilisez une langue de coiffeuse, c'est un texte assez amusant, assez savoureux, et puis soudain, vous allez pouvoir aussi parler de toute autre chose, ça peut être pour parler, par exemple, d'un faussaire, on y reviendra, cette histoire de faussaire, qui peut s'interpréter, et puis soudain, on arrive à Glenn Gould, il y a des jeux discursifs que permet le dispositif des 32 variations.
Oui, tout à fait. L'idée de départ était donc aussi de se calquer sur les variations Goldberg, donc un thème et 30 variations, c'est-à-dire évidemment sur un système polyphonique qui n'est pas une seule histoire avec un seul sens, et qu'on soit entraîné comme par des chevaux emballés sur une seule route un petit peu trop droite. Moi c'est vrai que faire intervenir plusieurs voix, c'est quelque chose que j'aime bien. Et après, c'est vrai que ces voix ont été décidées un petit peu par la fiction que j'ai mise en place, puisque le point de départ, comme on l'a dit, se situe dans un café, comme chaque matin. Où le personnage qui est Glenn Gould, qui n'est pas mort puisqu'il voulait avoir un petit peu de temps pour lui, va prendre son thé tous les matins, et les autres voix sont tout simplement celles qu'il croise, donc cette fameuse serveuse qui sera importante dans le reste du récit, mais aussi la coiffeuse qui va prendre son café avant d'aller bosser, un vieux gars du quartier plutôt sympathique qui est à la retraite, donc il passe assez souvent, qui est assez gouailleur, qui a aussi une voix très particulière. Et puis il y a un jeune homme qui est un petit peu mystérieux aussi, qui apparemment adore les figures de faussaires, donc on pense qu'il fait une thèse dessus, et qui raconte des vies comme ça. Tous sont assez bavards. Et c'est vrai qu'au départ, on peut avoir une impression de discontinuité, mais finalement, évidemment, il y a des petits motifs qui se répondent, et puis on se rend compte que sans doute, au fur et à mesure, le tableau se compose.
Est-ce que vous faites de la disparition de Glenn Gould, qui n'est pas mort, est-ce que vous en faites un acte artistique pour Glenn Gould ?
Acte artistique, je pense. Enfin, là, mon hypothèse, c'est d'ailleurs celle qu'il avait formulée, c'est qu'il, après avoir quitté l'arène du concert, il voulait quitter même tout ce qui était en rapport avec une sorte de comment dire, d'attache trop, d'une emprise trop forte du monde pianistique. Il disait souvent que, justement, après son 50e anniversaire, il avait envie de se retirer dans le Nord, dans son chalet, et puis de se consacrer à l'écriture et de s'extraire de la vie sociale qui lui pesait beaucoup. Donc j'ai plutôt pris ça comme une sorte de sain ras-le-bol par rapport à une société oppressante qu'on peut d'ailleurs tous ressentir. Et c'est aussi la fonction des autres voix. Et de leur bavardage et de leur présence, de faire sentir cette oppression permanente.
Prendre du bon temps pour imaginer de nouvelles postures, de nouvelles façons pour se sentir vivre à nouveau au clavier. C'est un peu ça, dans la pensée de ce Glenn Gould que vous imaginez
Oui, je pense que c'était aussi assez proche de ce qu'il a pu écrire, puisque lui, il avait... C'est un livre qui parle beaucoup de solitude, c'est aussi le sens du titre, soliste. Et il a souvent dit que pour X temps passé en compagnie d'êtres humains, pour un artiste, il fallait multiplier ça par une manière exponentielle en temps de solitude pour pouvoir parvenir à la création. Donc la création ne pouvait se nourrir que de solitude et s'extraire du bruit du monde. Donc je pense que pour lui, toutes ces expériences de retrait en ce sens et de relatif isolement, parce que c'était quand même quelqu'un assez sociable et qui avait des amis, servaient à sa création et à son duo, à son rapport comme ça très... solitaire avec le clavier.
Parce que quand il est dans ce café où il a attendu comme chaque matin à heure fixe, il est solitaire.
Oui, il s'isole, tout à fait.
Il n'entre pas en correspondance avec la serveuse au café, avec la coiffeuse qui est là au même moment. Il n'entre pas en interaction avec elle si ce n'est par sa présence.
Oui, il s'isole, tout à fait.
Et ça, c'était pour donner encore plus un sentiment de solitude ?
Non, c'est le personnage qui est comme ça. Non, enfin, c'est vrai. Enfin, je pense que c'est totalement cohérent avec son caractère, puisqu'on découvre ensuite le personnage. Là, c'est pas Glenn Gould, évidemment, mais le personnage que je crée, on voit que c'est quelqu'un qui a des petits problèmes avec la notion de société, qui a pas trop envie de se frotter aux gens, qui aime pas qu'on le frôle dans la rue, qui n'aime pas la foule, qui a plutôt envie qu'on le laisse tranquille.
Oui, parce que celui qu'on voit dans le café, arrivé comme chaque matin, il s'appelle Thomas.
Ouais,
c'est
ça,
Glenn Gould qui s'appelle Thomas.
Il y a toujours un vieux doute quand même, hein, pour le lecteur. Donc, il s'appellerait peut-être Thomas, oui.
Parce qu'il y a ce prénom qui revient.
Mmh. Peut-être.
Est-ce qu'on parle de la partie 31, juste avant la fin, où il y a des phrases terribles sur Thomas?
Ah bah après, il ne faut pas trop spoiler non plus, hein, mais si vous voulez, on peut en parler, tout à fait.
Parce que ça fait partie, je trouve, du dispositif. On,
ouais.
on est vers la fin de cette variation Goldberg, la fin de vos variations, et on arrive sur... Alors qu'on peut... la manière dont j'ai lu cette partie 31, bien entendu, elle est émouvante, elle est bouleversante. Sur Thomas, donc ce Glenn Gould qui serait pas mort, les phrases sont âpres, sont d'une dureté terrible, mais on peut penser aussi que c'est que vous en faites un jeu, c'est-à-dire que c'est peut-être vraiment Glenn Gould. Après tout, l'interprétation peut être libre, parce qu'il y a ces jeux où... Il y a ces phrases, oui, vraiment des phrases terribles, comme quoi Thomas serait un faussaire.
Oui, bah, c'est une des hypothèses posées par le livre. C'est aussi pour ça que le fameux jeune homme qu'on trouve dans le café nous livre à ses obsessions à travers des figures comme celle de Clifford Irving, enfin Howard Hughes raconté par Clifford Irving. C'est toute la question du vrai du fou. Il y a aussi la présence du... en fait, le film F for Fake,
tout à fait, d'Orson Welles,
a été vraiment... enfin, est venu entrer... Des fois, il y a des choses comme ça qui arrivent. Est venu entrer en collision avec la figure de Gould. Et c'est vraiment un film très riche. Il y a beaucoup d'éléments. D'ailleurs, je ne les ai pas tous utilisés, ceux que je voulais utiliser au départ. Parce que c'est vraiment un film qui dit beaucoup de choses sur ces notions de trickery et de vrai, de faux, de personnages, de masques. Voilà. Et je pense que tout ce qui met en jeu une certaine célébrité ou en tout cas un rapport à la vie publique, forcément met en jeu ces questions du masque et de l'identité.
Parce qu'il y a trois faussaires dans oui. Soliste, il y a donc tout d'abord Elmire qui oui. arrive, personnage principal de F for Fake d'Orson Welles. Donc Elmire, ce grand peintre faussaire, enfin quelqu'un qui a vraiment mis la technique du faux à son niveau d'intensité vraiment maximale. Il y a aussi bien entendu ce Clifford Irving qui écrit une biographie entre guillemets autorisé de Howard Hughes, mais dans un dispositif de faussaire là encore, puisque en fait elle n'est pas du tout autorisée, il ne l'aurait jamais rencontrée, il en fait une vraie fausse autobiographie. Et puis un autre peintre, Han van Meegeren, je ne sais pas si je prononce.
Je ne sais pas non plus comment se prononce.
Voilà. Donc voilà, il y a ces trois faussaires là ouais. qui se répondent et qui, pour moi, sont des parties vraiment, vraiment magistrales dans Soliste et qui alertent justement sur le côté quelque chose de, une impureté quelque part dans la fiction. Une impureté parce que bien entendu on sait que Glenn Gould est mort et que c'est le jeu fictionnel, mais une impureté dans votre système narratif, une impureté dans cette fiction-là qui lui ajoute beaucoup.
J'ai essayé en tout cas. Et puis c'est vrai que c'était des figures qui se trouvaient entrées en... Enfin au départ je les ai fait un petit peu entrer en collision avec ça. Mais en fait, ça s'est trouvé beaucoup plus en harmonie que ce que je pensais. Notamment, j'avais trouvé une citation de Gould dans un de ses journaux où il disait qu'en fait, il enviait beaucoup Howard Hughes et qu'il aimerait bien avoir sa vie. Puisque l'histoire d'Howard Hughes, qui est donc un milliardaire américain avec une vie absolument rocambolesque, enfin, qu'on imagine tout droit sorti d'un scénario de film, et qui, effectivement, avait réussi à s'extraire du monde et qui vivait, se menait vraiment par des obsessions, qui se laissait vraiment mener par ses obsessions sans que ça pose le moindre problème, et qui est mort, enfin, à sa mort, c'était assez mystérieux parce que lui-même, il était tellement méconnaissable, et son corps avait tellement souffert, était devenu tellement une sorte de corps modifié par la science, par la douleur, par les opérations, que, oui, il a fallu une sorte d'enquête médico-légal pour être sûr que ce soit vraiment lui. Et voilà, j'ai trouvé cette espèce de lien. Mais après coup, après avoir choisi de parler de lui dans ce journal de Gould, et je me suis dit que finalement, donc, ces deux figures qui pourtant au départ sont supposées avoir des vies extrêmement différentes, puisqu'il y a un côté assez bling de Hughes, même s'il était caché, il y avait le côté, il sortait avec toutes les starlettes de l'époque, les milliards dépensés genre pour faire un simple trajet, je ne sais où, acheter un hôtel quand le directeur était désagréable, enfin ce genre de comportement qui était vraiment à l'opposé de l'esprit très protestant d'un Gould qui faisait pas de dépenses comme ça, somptuaires, etc. Mais quelque part, dans leur désir de s'extraire du monde et de chercher une certaine forme contemplative, je dirais, c'est vrai qu'il se trouve des ponts entre ces deux personnages.
Et le côté obsessionnel à évidemment guérir leurs problèmes psychologiques à partir de rituels, c'est peut-être aussi pour ça que... Enfin, c'est la raison pour laquelle sans doute Gould a arrêté les concerts pour s'occuper de faire des disques. Vous écrivez notamment, en faisant parler Glenn Gould au studio, « Je trouve enfin mon élément, tout est extrêmement ritualisé. » Et le soliste s'invente un ensemble secret, tout est ritualisé.
Mais je pense pas, enfin, moi je ne considère pas que c'est des problèmes psychologiques.
Oui, j'ai peut-être été un petit peu fort,
non,
effectivement.
Non,
oui.
Je dis ça parce que... C'est vrai qu'on a beaucoup accusé, enfin on a beaucoup caricaturé Gould, voilà, genre ah oui, il mange que des biscottes avec du lait, il enlève pas ses gants, en montant en épingle comme ça des manies. Mais bon, oui, enfin certes, mais je pense pas que c'était forcément. Je pense que c'était quelqu'un évidemment très obsessionnel, mais quel artiste n'est pas excessivement obsessionnel, enfin. Pour s'attacher à une perfection, à chercher la perfection, justement, le travail du studio nécessite une forme de travail obsessionnel, quand même. Donc, c'est vrai que je crois que ça lui correspondait évidemment beaucoup plus que l'incertitude d'une salle de concert où il y a un plancher qui va craquer, quelqu'un qui va se mettre à tousser, il y aura un courant d'air. Alors ça, évidemment, il détestait les courants d'air parce qu'il était très frileux. Donc c'est certain que son génie s'est vraiment inventé dans cette salle de montage, parce que je pense qu'on peut en parler maintenant. C'est vrai que c'était vraiment quelqu'un de révolutionnaire en la matière. Quand il a décidé d'arrêter le concert et de se mettre à monter ses pièces musicales, ça a été une sorte de scandale et de révolution dans le monde musical, parce qu'à l'époque, vraiment, on disait que vraiment l'interprétation, c'était quasiment une sorte de moment divin, et qu'il ne fallait pas du tout toucher à ce moment divin, et donc des copier-coller en salle de montage, ça semblait une sorte de crime de lèse-musique absolument atroce. Donc il s'est fait beaucoup attaquer à l'époque, alors que lui, évidemment, il était plus dans des logiques, je pense qu'il lisait aussi beaucoup plus de philosophie et d'ouvrages, même de sociologie, que ses contemporains. Il était plus dans une démarche de montage radiophonique, puisqu'il a beaucoup pratiqué ça, et de réflexion postmoderne quant à la notion d'œuvre et à la notion de qu'est-ce que c'est que la musique. Pour lui, le moment de grâce, soi-disant, devant 400 personnes, alors qu'il était mort de froid et terrorisé, ça n'existait pas. Et c'est vraiment lui qui a lancé, je dirais, parce qu'après, évidemment, il y a eu le succès concert, tout le monde s'y est mis. Et c'est un petit peu lui qui a essuyé les plâtres en étant à la fois connu pour ça, mais en étant beaucoup, beaucoup attaqué pour ça aussi.
J'aimerais revenir à cette question de Fosser. Si vous vous êtes autant, si vous avez insisté autant dans Soliste Lorimangie sur ces faussaires-là, est-ce aussi une forme d'avertissement sur ce que vous vouliez éviter à propos de ce livre sur Glenn Gould, ne pas faire acte de faussaire vous-même?
Alors peut-être, je ne l'ai pas pensé ainsi. Vous voulez dire de ne pas m'emparer de sa vie, c'est ça, et
Oui,
d'en
parce
faire,
que
oui.
la manière dont vous vous êtes. Justement, vous ne vous êtes pas emparé de Glenn
Oui.
Gould. J'ai aussi une admiration sur Glenn Gould et je m'attendais peut-être à avoir une énième sorte de biographie un peu romancée, un peu fictionnelle. Et j'étais au contraire pas surpris, vous connaissant. Je me doutais bien que ça n'allait pas être aussi gnangnan que ça, bien entendu. Mais j'étais vraiment heureux d'y trouver quelque chose où justement on très éloigné de ce qu'on pouvait s'attendre sur Glenn Gould, où justement, vous ne faites absolument pas acte de faussaire, au contraire.
Bah, je me suis vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, heurtée à un écueil quand je me suis réattaquée à ce livre en me disant que je n'allais absolument pas pouvoir. Enfin, je ne trouvais absolument pas par quel biais, par quel moyen narratif j'aurais pu m'emparer de la vie de Glenn Gould. C'était absolument impossible. Parce que lui-même avait trop bien écrit là-dessus. Enfin, c'était totalement l'inverse d'Elvis Presley, qui avait été tellement surreprésenté comme un dessin, je dirais, esquissé. En fait, on peut en faire absolument. Enfin, j'aurais pas fait n'importe quoi, mais enfin, on peut vraiment. C'est une figure malléable. Lui-même était très plastique. Son corps changeait, ses costumes. Voilà, c'est un personnage qui est fait pour ça. Et Gould, c'est absolument l'inverse. C'est un personnage qui est blindé de toutes parts de représentations, de discours, de choix. Donc c'était pas possible. Mais en même temps, il m'importait de célébrer et d'évoquer des éléments de sa vie et des choix esthétiques le concernant qui me tenaient à cœur. Notamment cette question du studio, de la solitude, du froid, qui est. Le froid, c'est aussi très important dans le livre, parce que c'est quelque chose que je connais mal. Et ça m'a plu d'essayer d'imaginer l'importance que ça pouvait avoir pour lui, puisqu'il a quand même consacré des documentaires radiophoniques à cette question, et il en parlait souvent. Voilà, donc il était impossible de prendre les choses frontalement. Et les traiter de manière polyphonique, ça me semblait de surcroît un autre hommage. Voilà, un peu par la bande, un peu bacchien, on va dire.
Est-ce que c'est justement par ce dispositif bacchien qui vous a, est-ce que c'est ce dispositif qui vous a permis justement de prendre une distance avec Glenn Gould, avec cette figure pour laquelle vous avez une grande admiration, et j'imagine que ça doit être assez difficile d'écrire avec quelqu'un, enfin sur quelqu'un pour qui on a une grande admiration, et ce dispositif des variations Goldberg, ça vous a permis d'avoir une grande mise à distance et du coup de vous projeter, vous, en tant qu'écrivaine, dedans?
Oui, bah en fait, c'est sûr que ça m'a permis d'éviter. Enfin, je voulais vraiment pas mettre les pieds dans sa vie, quoi. Enfin, chacun a droit d'avoir une vie peinarde. Et moi, c'est vraiment pas du tout le genre de projet qui m'intéresse, de rentrer dans la psychologie des gens et dans leur biographie de manière véritable. Donc à la fois, je me suis distanciée de ça, mais en même temps, je pense que j'ai jamais eu l'impression d'être aussi proche de lui que par le biais que j'ai abordé, enfin que j'ai choisi, puisque en fait, je suis quand même rentrée dans ses obsessions et j'ai évidemment relu tous ses écrits. Il y a quand même eu un travail d'immersion assez profond qui s'est fait. Donc à la fois, j'ai tâché d'être extrêmement respectueuse par rapport à des éléments biographiques, donc moi je n'ai que faire et je pense que pas mal de gens n'ont que faire. Et en même temps, j'ai été surprise de me retrouver aussi proche de sa pensée, enfin, en tout cas c'est l'illusion que j'ai et je vais continuer à la cultiver, par ce dispositif-là.
Parce que, en même temps, avec ce dispositif des 32 variations, vous avez aussi pris ce parti-là, enfin cet autre dispositif qui est de faire un livre sur Glenn Gould sans Glenn Gould, puisqu'en fait, il est mort en 82, vous inventez un personnage qui s'appelle Thomas, qui s'est dit je suis Glenn Gould, non pas ressuscité, mais Glenn Gould pas mort, c'est moi. Ça, c'est une belle invention. De faire un livre sur Glenn Gould, mais sans Glenn Gould, c'est-à-dire qui se passe après, bien après sa mort, parce que ce Thomas, il est né la même année où Glenn Gould est mort, il est né en 1982. Enfin, là, vous avez plus qu'un parti pris, c'est le dispositif dans le dispositif, c'est un autre dispositif qui vous permet de vous mettre à l'écart également et de vous prémunir peut-être.
Non, ça pas, enfin, non, j'ai pas trop tendance à me prémunir en général, mais en revanche, je trouve que ça incarne bien ce que souhaitait Glenn Gould, c'est qu'en fait, c'est son œuvre qui vit. Voilà, toute la question est là. Je parle souvent de la fameuse sonde qui est partie avec la sonde Pioneer. Je ne sais plus en quelle année maintenant, j'ai oublié.
Dans les années 70, 76, ouais, 77.
À la grande époque, on envoyait des tonnes de sondes en étant persuadé que les Martiens allaient adorer nos petites choses formidables. Mais bref, il y avait donc un extrait de Gould qui était parti. Et voilà, je dirais que ce livre, c'est un petit peu ça. C'est que c'est quelque chose qui survit bien loin de la biographie du corps mortel et de l'histoire. Et finalement, c'est vrai qu'à travers un personnage, c'est une mise en scène de son œuvre. C'est pour ça que je parlais autant de ses obsessions, de ses choix esthétiques. Voilà, j'ai vraiment fait un choix de ce qui, pour moi, est l'essence de Gould et qui est mis en fiction aujourd'hui.
Et dans ce que vous comptez faire après, dans votre travail d'écrivaine, ça s'inscrit comment, ce livre de Glenn Gould? Est-ce que c'est une partie d'un travail en cours, non pas sur après Glenn Gould, mais voilà, il y a Elvis, il y a Glenn Gould, est-ce qu'il y aura une continuation de fiction avec à chaque fois un personnage connu?
Alors je pense, en fait je dois avouer que je travaille pas trop avec des plans, j'aime bien me faire des surprises en fait. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui travaillent avec des plans et c'est d'ailleurs très bien, mais alors moi je suis absolument incapable de le faire, donc je suis absolument incapable de vous dire ce qui va arriver ensuite. Enfin, il y a des choses en cours, mais voilà. Non, en fait, moi, vous l'avez sans doute remarqué parce que vous aviez lu Fonction Elvis avant. Moi, j'aime pas trop me répéter. J'aime bien que les choses changent vraiment. J'aime pas l'idée qu'il y a un style enfin, je vais pas commencer à faire Rostropovitch, Richter. Enfin voilà, sinon ça, je vais un petit peu m'ennuyer. Enfin, c'est des gens que j'aime beaucoup par ailleurs, d'ailleurs. Mais non, alors je m'interdis pas de m'intéresser à une autre figure, mais en tout cas, sans doute pas tout de suite. Et de manière sans doute très différente de celle que j'ai utilisée pour Gould. Moi, je pense que c'est bien de se redécouvrir, de découvrir une autre facette à chaque livre, et de changer à chaque fois. C'est pour ça que j'ai réagi quand vous avez dit de me prémunir. Moi, j'aime bien me mettre en danger à chaque fois, en fait, et me dire à chaque fois que si ça se trouve, voilà, il n'y aura pas de nouveau livre, ça sera un échec, enfin, ça ne va pas marcher. Parce que c'est bien de tout remettre en jeu à chaque fois.
Merci beaucoup,
Laurie. Merci à vous, merci beaucoup.